Bonsoir à tous, il est 20h à Paris, 14h à Lima, au Pérou, et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, Donald Trump triomphant, reçu à la Maison Blanche par Joe Biden. Près de 4 ans après son départ, dans une atmosphère de chaos, le président élu savoure sa revanche et se prépare à gouverner avec une équipe de choc à ses côtés. Joe Biden et Xi Jinping ont eu rendez-vous samedi prochain à Lima, au Pérou, en marge du sommet de l'APEC. Il s'agira de la 3e rencontre en personne entre les deux dirigeants américains et chinois, et la toute dernière pour Joe Biden. La ministre française de la Transition écologique renonce à se rendre à la COP29 de Bakou. Agnès Pannier-Runacher dénonce les attaques inacceptables du président Aliyev, qui a dénoncé avec virulence les crimes du régime du président Macron, notamment en Nouvelle-Calédonie. Enfin, à nouveau, la plus grande inquiétude ce soir en Espagne, 15 jours seulement après les inondations dévastatrices qui ont tué plus de 200 personnes. De nouvelles pluies torrentielles s'abattent sur le sud et l'est du pays, ravivant les craintes des sinistrés. Il était parti, furieux et défait, un petit matin de janvier 2021. Donald Trump a donc fait ce soir son grand retour à la Maison Blanche, très courtoisement reçu dans le bureau ovale par Joe Biden, qui a promis une transition sans accroc avec son ennemi juré. Une visite à rien humiliante pour le président démocrate, qui sait qu'une bonne partie de son bilan va sans doute être réduite à néant par l'équipe de choc que son rival est en train de façonner, avec des nominations plus radicales les unes que les autres, et notamment celle d'Elon Musk, le très mégalo patron de Tesla, promu conseiller spécial chargé de l'efficacité gouvernementale, avec pour mission d'envoyer des ondes de choc dans le système, de déréguler à tout va. Reste que cette nomination de l'homme le plus riche du monde est source de nombreux conflits d'intérêts, Nathalie Vitran.
Dans son communiqué, Donald Trump fixe la feuille de route. Ensemble, ils devront démanteler la bureaucratie fédérale, supprimer les régulations excessives et tailler dans les dépenses inutiles. En meeting fin octobre, le milliardaire Howard Lutnick avait sondé avec gourmandise Elon Musk.
How much do you think? Combien pensez-vous que nous pouvons tirer de ce gaspillage budgétaire?
Au moins 2000 milliards de dollars, lâche alors l'homme le plus riche du monde, quasiment un tiers du budget fédéral. Un budget qui profite pourtant largement à ses entreprises et surtout à SpaceX. L'entreprise spatiale de Musk a bénéficié de 15 milliards de dollars de contrats publics, que ce soit pour la NASA ou le Pentagone. L'État fédéral est à la fois un de ses principaux clients et un concurrent potentiel. Le patron de Tesla et du réseau social X a aussi tout intérêt à affaiblir les ministères de l'énergie, du transport, de l'environnement ou du commerce qui régissent son activité. Quant au milliardaire, encore un, Vivek Ramaswamy, il promet lui une deuxième déportation de masse.
La déportation de millions de bureaucrates non élus hors de Washington DC.
Vivek Ramaswamy qui a fait fortune dans les biotechnologies, l'industrie pharmaceutique l'une des plus régulées au monde et pour cause il s'agit de santé publique, en tout cas jusqu'à présent.
Donald Trump, qui se voit en tout cas à la Maison Blanche pour très longtemps, il a suggéré aujourd'hui envisager de se représenter dans 4 ans. En attendant, c'est toujours le président en exercice, Joe Biden, qui gère le pays jusqu'en janvier prochain et qui donc rencontrera ce samedi Xi Jinping au Pérou, rencontre au sommet. Les deux présidents américains et chinois se verront en marge du sommet de l'APEC à Lima. Il s'agira de la 3e rencontre en personne pour les deux dirigeants, la toute dernière pour Joe Biden, qui laissera donc les commandes en janvier au républicain Donald Trump, lequel a déjà nommé dans son équipe des tenants d'une ligne dure face à Pékin. La COP29 sur le climat est à la peine déjà désertée par la plupart des chefs d'État qui n'ont pas fait le déplacement à Bakou. Les négociations avancent difficilement et la ministre française de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé aujourd'hui qu'elle ne se rendrait pas à Bakou, elle non plus. en raison des attaques inacceptables du président azerbaïdjanais contre la France et l'Europe. L'hôte du sommet, le président Aliyev, a en effet dénoncé avec virulence aujourd'hui encore l'histoire coloniale de la France et les crimes, a-t-il dit, du régime du président Macron dans les territoires d'outre-mer et notamment en Nouvelle-Calédonie. Des accusations brutales, inhabituelles dans le cadre d'un sommet et qui témoignent en tout cas de la très vite vive dégradation des relations entre Paris et Bakou. Les précisions, Daniel Valo.
Ce n'est pas la première fois que l'Azerbaïdjan attaque la France pour sa gestion de la crise en Nouvelle-Calédonie. Mais cette fois, les propos d'Ilham Aliyev sont prononcés dans le contexte d'une conférence internationale et dans des termes particulièrement virulents. Le président azerbaïdjanais évoque notamment les crimes de la France dans ses prétendus territoires d'outre-mer et les violations des droits de l'homme perpétrées, je cite, par le régime d'Emmanuel Macron.
Après tout cela, la France n'a été dénoncée ni par la Commission européenne, ni par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. C'est de l'hypocrisie politique. Le Parlement européen et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe partagent avec le gouvernement du président Macron la responsabilité des meurtres d'innocents.
L'allusion à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe n'est pas anodine. L'Azerbaïdjan a en effet été suspendu de cette assemblée en début d'année pour la répression exercée sur l'opposition et sur les médias indépendants du pays. Quant à la France, si elle se retrouve elle aussi dans le collimateur du président azerbaïdjanais, c'est avant tout en raison de l'aide apportée par Paris à l'Arménie depuis qu'en 2023, l'Azerbaïdjan a repris par les armes le contrôle du Haut-Karabakh. Cette crispation des relations diplomatiques entre la France et l'Azerbaïdjan s'est traduite par le soutien très appuyé apporté par Bakou à la cause indépendantiste dans les territoires d'outre-mer français et en premier lieu en Nouvelle-Calédonie.
En France, le gala qui fait polémique, celui des forces francophones sionistes au service de la puissance d'Israël. Voilà en tout cas le programme du dîner organisé ce soir à Paris dans un lieu encore tenu secret pour l'instant. Pierre-Olivier.
Objectif, festoyer entre personnes qui partagent les mêmes convictions politiques, en l'occurrence une ligne extrêmement droitière et sioniste. Certains participants annoncés font déjà polémique, à commencer par l'organisatrice, l'avocate franco-israélienne Nili Kupfer-Naouri, qui avait assuré sur un plateau de télévision qu'il n'y a pas de population civile innocente à Gaza. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, connu pour son soutien inconditionnel à l'annexion des territoires palestiniens, ne sera, lui, pas présent physiquement, comme cela avait été annoncé, mais devrait s'exprimer en visioconférence, nous ont confié les organisateurs.
Un événement qui intervient dans un contexte tendu après les violents affrontements entre supporters à Amsterdam la semaine dernière. Plusieurs rassemblements pro-palestiniens sont également organisés ce soir à Paris avant demain. Un match de football sous très haute surveillance policière entre les Bleus et l'équipe d'Israël au Stade de France. À nouveau, la plus grande inquiétude en Espagne. 15 jours seulement après les inondations qui ont tué plus de 200 personnes, de nouvelles pluies torrentielles se sont abattues aujourd'hui sur le sud et l'est du pays, ravivant les craintes des sinistrés. À Malaga, en Andalousie, les services d'urgence ont déjà évacué 3000 personnes et demandé à d'autres habitants de se réfugier sur des terrains plus élevés. Outre-Manche, le gouvernement travailliste entend classer les hôpitaux à la manière des clubs de foot pendant le championnat national. L'hôpital public était une priorité de la campagne pour les législatives cet été, car en Angleterre, les patients doivent attendre des mois pour être pris en charge et les établissements peinent à recruter. D'où l'idée du gouvernement de stimuler la performance des hôpitaux. À Londres, Emeline Vain.
À partir d'avril, tous les hôpitaux anglais seront classés selon leur performance. Les délais d'attente pour les patients, aux urgences et pour le suivi, la gestion financière et la qualité de leur équipe dirigeante. Pour les établissements en haut de tableau, plus de liberté, de flexibilité, en particulier dans les décisions budgétaires. À l'inverse, les directeurs des hôpitaux en bas du classement ne pourront plus toucher de primes ou prétendre à des augmentations salariales. Le ministre de la Santé, Wes Streeting, désire changer l'approche managériale et évincer les directeurs sous-performants pour tenir la promesse du Parti travailliste au pouvoir de faire diminuer les listes d'attente qui dépassent les 7 millions de patients. Le délai médian de prise en charge en Angleterre approche les 15 semaines. Les professionnels de la santé s'inquiètent de l'instauration d'un système de « name and shame », littéralement « nommé et blâmé », qui pourrait mettre encore davantage de pression sur les soignants, selon eux, et décourager de nouvelles vocations, alors que l'hôpital public ne parvient déjà pas à pourvoir plus d'un poste sur 15. Emeline Vin, Londres, RFI.
Et on termine avec les soucis judiciaires de Marine Le Pen en France, la patronne de l'extrême droite, jugée dans le cadre du dossier du Parlement européen, des assistants parlementaires. Une peine de 5 ans de prison a été requise ce soir contre elle.